Chapitre 52. Une réfutation. Paul, calomnié par le faux disciple, sentit qu'il était de son devoir de se justifier et de montrer que sa vie et ses labeurs féconds lui donnaient pleinement droit au titre d'apôtre. Les faux disciples d'aujourd'hui ont les mêmes méthodes de dénigrement que ceux du temps de Paul et par conséquent doivent être combattus avec les mêmes armes. Maintes et maintes fois, depuis ma conversion au protestantisme, j'ai lu dans la presse catholique romaine que pas un protestant respectable ne voudrait avoir à faire quoi que ce soit avec moi si j'étais connu. Ces calomnies avaient spécialement cours en 1892 et provenaient de machinations concertées par le clergé catholique romain du Canada dans le but évident de me tuer moralement puisque les différentes tentatives pour m'ôter la vie avaient échoué. C'était si bien le cas que les journaux eux-mêmes ne purent s'empêcher de le noter. Si vous jetez un coup d'œil sur la collection du Witness de Montréal pour l'année 1892, vous pourrez lire dans un article de fond du 10 mars le paragraphe suivant. Nous lisons dans un journal de l'Iowa que M. Shinicky fait des conférences et qu'il est assailli par les plus viles diffamations. On dirait que ces calomnies, ourdies avec soin, ont été fournies par quelques bureaux de chantage du Canada. Des attaques de cette nature, faites publiquement, là où M. Shinicky est connu, sont comparativement inoffensives. Il lui est facile de confondre ces calomniateurs qui ne font que lui donner des arguments encore plus efficaces. Bien qu'il ait toujours été vilipendé de cette façon, depuis qu'il a quitté l'Église catholique, il est encore, comme il l'a été pendant plus de 20 ans, un ministre estimé et respecté de l'Église presbytérienne du Canada. C'est une réponse suffisante à de telles insultes. Un catholique romain ayant publié dans le même journal, sous le pseudonyme de Kentucky Ben, d'ineptes calomnies analogues, je crus qu'il était de mon devoir de lui répondre publiquement. Comme ma réponse contient beaucoup de faits et d'éléments nouveaux appartenant à la dernière partie de ma vie passée dans la vraie Église du Christ, je crois qu'il est à propos de l'insérer dans ce livre. Au rédacteur en chef du Witness, Monsieur, si vos lecteurs protestants ont pris autant de plaisir que moi à parcourir le dernier article de mon ami catholique romain Kentucky Ben, ils s'uniront à moi pour lui adresser publiquement l'expression de notre gratitude. Car ce correspondant ne touche pas à un seul point de ce qui fait le sujet fondamental de la controverse. En se procurant le plaisir de faire des personnalités et de répondre avec des insultes et des calomnies, il a non seulement fourni à vos lecteurs la meilleure preuve que mes arguments étaient irréfutables, mais encore, il a fait voir le genre d'honnêteté et de véracité que nous devons attendre d'un catholique romain quand nous discutons avec lui. Que vos lecteurs relisent son premier article, ma réponse et sa dernière réplique, et ils verront qu'on n'a pas attaqué un seul de mes arguments. Et pourquoi cela? Simplement parce que les catholiques romains, étant incapables de nous rencontrer franchement sur le terrain des arguments, sont forcés d'éluder les questions et d'avoir recours aux insultes dont ils possèdent toujours une riche provision. Se sentant tout à fait incapables de renier ou d'expliquer les enseignements blasphématoires et idolâtres de son Église, que j'avais copié mot à mot dans les auteurs les plus approuvés, Kentucky Ben s'est figuré qu'il me pulvériserait définitivement en m'appelant apostat et en affirmant que pas un protestant respectable ne voudrait de ma société. Mais, comme il n'a daigné donner aucune preuve de mon déshonneur public, ni du refus des protestants respectables d'avoir aucune communication avec moi, je veux combler cette lacune et vous donner quelques faits qui montreront que non seulement Kentucky Ben, mais encore tous les évêques et les prêtres du Canada, aussi bien que les journaux catholiques romains de Montréal et le Québec, sont strictement de bonne foi quand ils proclament du matin au soir, depuis 30 ans, que l'apostat Shinicky est si corrompu que nul protestant respectable ne voudrait de sa société. Certainement, ils me seront reconnaissants de leur donner les preuves irréfragables de cette suprême dépravation dont la honte me flétrit d'un stigmate éternel. Premier fait. Quelques mois après ma conversion du catholicisme à la vérité, telle qu'elle est en Jésus-Christ, mes paroissiens de Sainte-Anne, Illinois, furent visités par une terrible calamité. Les récoltes furent perdues et nous n'avions pas deux mois de vivre. Les ministres et les protestants de Washington, Baltimore, Philadelphie, New York, Boston, Plattsburgh, Springfield, Chicago, Lafayette et de beaucoup d'autres villes, ayant entendu parler de cette calamité, m'invitèrent à aller leur adresser la parole. Pendant les trois mois que je parlais à ces chrétiens, les grandes églises et les immenses salles ne furent jamais assez vastes pour contenir les foules qui voulaient m'entendre. Et non seulement les nombreux auditeurs voulaient bien consentir à converser avec l'infâme apostat Shiniki, mais encore, ils lui donnaient volontiers une poignée de main. Et ce faisant, ils lui laissèrent glisser $75,000 comme un témoignage public de leur horreur et de leur mépris pour lui. Ces $75,000 non seulement sauvèrent d'une ruine certaine ma chère colonie de Sainte-Anne, mais elles devinrent la première preuve irréfutable que Shiniki est si corrompu que nul protestant respectable ne voudrait de sa société. Deuxième fait. L'année suivante, 1860, était le troisième centenaire de la réforme protestante en Écosse. La ville d'Édimbourg prépara des fêtes telles que le monde n'en avait jamais vues et y invita les protestants les plus éminents du monde entier, tant ministres que laïcs. Le comité désigné pour faire ces invitations au nom du protestantisme écossais comprenait les docteurs en théologie Guthrie, Cunningham et Begg. Ces messieurs m'envoyèrent une lettre très affectueuse pour m'inviter à assister à leur grande assemblée à Édimbourg. Quand j'arrivais au milieu de cette assemblée, il y eut de tels cris de joie, de telles manifestations, de tels battements de mains que pendant longtemps, il fut impossible à qui que ce soit de dire un mot. D'après le règlement, aucun orateur ne devait parler plus d'une fois et cependant, on me pria de parler trois fois. Après l'assemblée, 400 des principaux pasteurs me pressèrent d'aller adresser la parole à leur congrégation et je passai trois mois à donner des conférences dans les villes de Londres, Glasgow, Liverpool, Birmingham, Bath, Manchester, Brampton, Sheffield, Oxford, Édimbourg, Armagh, Kingston, Queenstown, York, etc. Pour montrer leur suprême mépris pour ma personne et mon travail, comme le proclame M. Kentucky Benn, ils me donnèrent $25,000 pour mes humbles labeurs avant mon départ de leur noble pays. Troisième fait. Quand je faisais des conférences à Glasgow, le plus riche marchand de la ville, John Henderson, m'invita à aller prendre quelques jours de repos dans sa magnifique résidence. Le second jour, il invita un grand nombre de ministres de Glasgow à une soirée à la fin de laquelle il me présenta une bourse contenant $2,000 en or. Quatrième fait. Quand je faisais des conférences en Angleterre, le synode de l'Église libre de France, qui se tenait à Saint-Étienne, m'invita par l'entremise de son illustre président, Frédéric Monod, à assister à ses séances. J'acceptai cet honneur. Je me rendis à Saint-Étienne et adressai deux fois la parole à cette admirable Église de France. Cinquième fait. Quand je revins dans ma colonie de Sainte-Anne en 1861, je fus témoin de la terrible guerre civile entre le nord et le sud des États-Unis. Comme j'étais l'ami personnel du président Lincoln, j'avais l'habitude d'aller le voir tous les ans à la Maison-Blanche à Washington et cet homme illustre me donnait chaque fois des marques d'estime et d'amitié. Mais la dernière fois, il m'en donna une telle preuve que je crois qu'il est de mon devoir d'en parler ici. C'était le 8 juin 1864. Il me dit « Demain après-midi, je recevrai la délégation des députés de tous les États du Nord qui viennent m'annoncer officiellement que c'est le désir du pays de m'offrir la présidence pour une nouvelle période de 4 ans. Je vous invite à assister à cette intéressante réunion. Vous verrez quelques-uns des hommes les plus éminents de notre République et je serai heureux de vous présenter à eux. Vous ne vous présenterez pas comme délégué du peuple, mais bien comme l'hôte personnel du président et pour qu'il n'y ait point de difficulté, je vous donne cette carte avec un permis d'entrée avec la délégation. Ne quittez pas Washington avant que je vous aie revu. Je veux avoir votre opinion sur une affaire importante. » Et le jour suivant, l'infâme apostat Shiniki fut placé immédiatement à la droite du président des États-Unis et présenté par lui au plus illustre protestant de cette grande république. Sixième fait. En 1874, tous les protestants d'Angleterre voulurent féliciter l'empereur d'Allemagne à l'occasion de la réponse courageuse qu'il avait faite au pape, quand celui-ci avait eu l'insolence de lui écrire que, parce qu'il avait été baptisé, il devait se considérer comme son sujet spirituel. Un meeting monstre fut convoqué à Londres, dans Exeter Hall, où l'on devait entendre les plus grands orateurs protestants de l'époque et préparer la lettre de félicitations qui devait être remise entre les mains de l'ambassadeur d'Allemagne pour son empereur. Eh bien, le comité d'organisation de cette mémorable assemblée m'envoya une lettre respectueuse pour me prier de retourner en Angleterre afin de prendre la parole à ce meeting. J'y allais et parlais deux fois en présence des plus nobles fils et filles de l'Angleterre protestante. Septième fait. J'ai oublié de mentionner le fait que la première fois que j'adressais la parole au peuple protestant de Londres dans l'immense Exeter Hall, la foule était si grande que des milliers de personnes ne purent entrer. ce fut le célèbre Charles Spurgeon qui me présenta au peuple de cette grande métropole de l'Angleterre et le vice-roi, Sir John Lawrence, l'un des plus grands héros de l'Inde, avait consenti à présider le meeting. Huitième fait, la seconde fois que j'allais en Angleterre, en 1874, 200 pasteurs me prièrent de ne pas quitter leur pays avant d'avoir adressé la parole à leur congrégation pour la perversité et les idolâtries de l'Église de Rome. Le noble peuple protestant me donna encore 28 000 $ comme témoignage de ses sympathies chrétiennes. Neuvième fait. Quand je revins de cette seconde visite en Angleterre, la grande église presbytérienne du Canada me demanda de quitter ma chère mission de l'Illinois pour prêcher l'évangile à mes compatriotes canadiens français. Ils louèrent une maison confortable à Montréal pour ma famille et moi et m'accordèrent un traitement de beaucoup au-dessus de mes espérances. Uni avec cette grande église presbytérienne et sous sa protection, je travaillais au Canada de 1874 à 1878 avec un tel succès que 4 000 Canadiens français de Montréal et des environs abandonnèrent les impostures et les idolâtries du catholicisme pour accepter l'évangile de Jésus-Christ et formèrent plusieurs congrégations de convertis. Je ne cessais mon travail que lorsque je fus complètement épuisé et que les médecins m'ordonnèrent d'aller respirer l'air vivifiant de l'océan Pacifique en 1878. Pendant ces 4 années, presque tous les ministres de Montréal m'avaient prié d'adresser la parole à leur congrégation et j'avais eu le privilège de parler à Montréal, Toronto, Kingston, London, Guelph, Sarnia, Windsor, Québec, Halifax, St. John's, Peterborough, Muskoka, Ottawa, Boswell, Belleville, Brockville, Dundas, Hamilton et dans 250 autres villes ou villages. Ces faits sont encore une preuve évidente que les prêtres de Rome en général, et Kentucky Ben en particulier, sont particulièrement honnêtes quand ils proclament et publient que je suis si corrompu que les protestants qui ont la moindre dignité ne voudraient rien avoir à faire avec moi. Dixième fait. En 1878, quand je me préparais à aller respirer l'air vivifiant du Pacifique, je reçus providentiellement une lettre charmante du révérend George Sutherland, pasteur de l'une des congrégations les plus riches et les plus influentes de Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il m'invitait, au nom des protestants de cette contrée éloignée, à aller les visiter. Dans la lettre, il y avait un billet de 500 $ pour m'aider à payer mes dépenses de voyage. Onzième fait. Quand les principaux protestants de Sydney apprirent que le steamer qui m'amenait dans leur jeune colonie, déjà si progressive, était en vue, ils louèrent un bateau à vapeur spécial pour venir à ma rencontre avec enthousiasme à une distance d'au moins 12 milles. Douzième fait. Je passais 2 ans en Australie, dans la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Les pasteurs protestants, aussi bien que les laïcs, me comblèrent des témoignages publics et privés de leur estime et de leur respect. Je puis dire qu'ils me portèrent en triomphe d'un bout à l'autre de ces immenses contrées. Ayant été informé par des personnes dignes de foi qu'il y avait un complot organisé par les catholiques romains pour me tuer, ils placèrent presque chaque soir, pendant plus d'un an, une garde spéciale de 12 hommes pour me protéger. Leurs grandes églises, leurs immenses salles n'étaient jamais assez vastes pour contenir les foules qui venaient m'entendre. Plusieurs fois, ils combattirent comme des lions et quelques-uns même furent blessés en repoussant les catholiques romains aveugles et fanatiques envoyés par leurs prêtres pour me tuer. À Robert Town, ils demandèrent au gouverneur de la Tasmanie d'appeler la troupe pour me protéger et me sauver la vie. Je fis plusieurs centaines de discours, conférences et sermons à ces vaillants amis protestants que Dieu m'avait donnés dans ces pays lointains et ils me donnèrent 40 000 $ comme témoignage de leur sentiment d'amitié à mon égard pendant que j'étais au milieu d'eux. 13e fait. Au mois de juin 1889, lors de la réunion du synode général annuel de l'Église presbytérienne du Canada, quelques membres ayant fait observer que le père Shinicky devait célébrer dans peu de jours le 80e anniversaire de sa naissance, il y eut une explosion d'applaudissements telle que les murs en tremblaient. Le docteur en théologie, Mac Vicar, doyen de la faculté de théologie presbytérienne, et le docteur Warden, secrétaire, proposèrent que l'Assemblée m'adressât un vote de félicitations comme marque publique de son respect et de son estime. La motion fut adoptée à l'unanimité. Alors, le docteur Mac Vicar pria le synode de m'inviter à écrire un nouvel ouvrage sous ce titre « 30 ans dans l'Église du Christ » pour faire suite à mon dernier ouvrage « 50 ans dans l'Église de Rome ». Cette proposition fut aussi adoptée à l'unanimité au milieu du plus grand enthousiasme et des plus chaleureux sentiments de sympathie qui m'aient jamais été exprimés. Et c'est seulement quelques jours après tous ces faits publics que tous les échos des sacristies papistes répètent ce que tous les prêtres, les évêques et leurs journaux disent, à savoir que la corruption de l'apostat Shinichi est si connue que nul protestant qui se respecte ne voudrait de sa société. 14e fait. Quand j'étais en Angleterre en 1861, de grandes réceptions me furent données par quelques-uns des protestants les plus éminents de la Grande-Bretagne. Je n'en mentionnerai que quelques-unes pour éclairer la religion des évêques et des prêtres catholiques qui affirment perpétuellement à leurs ouailles que ma corruption est aussi reconnue parmi les protestants qu'elle l'est parmi les catholiques romains. La première invitation émanait du docteur Tait, alors évêque de Londres, qui bientôt après fut nommé archevêque de Canterbury et primat d'Angleterre et ainsi élevé à la plus haute dignité de l'église anglicane. Cette grande réception me fut donnée dans le palais historique de Lambeth et je me trouvai entouré de quelques-uns des dignitaires les plus éminents de l'église protestante, parmi lesquels je citerai le très révérend docteur Thomas, maintenant évêque de Geelong, Australie. La seconde réception que je mentionnerai me fut donnée par Lord Gainsborough, dont la femme était la première dame d'honneur de la reine Victoria. À sa table et dans son salon, j'étais entouré de l'élite de la noblesse de la Grande-Bretagne. Ils passèrent la soirée à me questionner sur les superstitions et les impostures de l'Église romaine et sur l'espoir que j'avais de voir le peuple canadien suivre l'exemple de l'Angleterre et briser le joug pesant et ignominieux du pape. Véritablement, j'étais confondu par leurs marques d'estime et d'affection. Au cours de la soirée, Lady Gainsborough invita une jeune duchesse à recueillir les offrandes de ses nobles hôtes pour le soutien de ma mission parmi mes compatriotes. Elle m'apporta 250 guinées en or, 1 250 $, afin que M. Kentucky Ben et tous les cardinaux, archevêques, évêques et prêtres, catholiques romains, aussi bien que leurs véridiques journaux toujours infailliblement conformes à la réalité, puissent avoir des raisons péremptoires de publier que l'apostat Shinichi est si corrompu que pas un protestant qui a le moindre respect pour lui-même ne voudrait rien avoir à faire avec lui. Je pourrais parler d'autres réceptions qui me furent données par Lord Roden, par Sir Arthur Kinnaird d'Édimbourg, membre du Parlement, et de beaucoup d'autres. Mais je suppose que les lecteurs intelligents et impartiaux commencent à avoir assez de preuves pour être convaincus que les prêtres, les archevêques et les évêques papistes, sans oublier M. Kentucky Ben, ont une autre conception du respect de l'honneur d'autrui. Une délicatesse de conscience si immaculée que l'amour de la vérité, de l'équité et de la justice les suffoque quand ils affirment que l'infâme apostat Shinichi est si corrompu que nul protestant respectable n'a jamais consenti à avoir de communication avec lui depuis qu'il a quitté la sainte, catholique et apostolique église du pape soi-disant infaillible. 15e fait. Cependant, il y a un autre fait qui prouve si clairement que les évêques et les prêtres de Rome, ainsi que M. Kentucky Ben, sont sincères, honnêtes, loyaux, francs et dignes de foi quand ils parlent de l'apostat Shinichi que je ne puis me résoudre à le passer sous silence. Depuis que Dieu m'a ouvert les yeux sur la corruption, les superstitions et les impostures du catholicisme, j'ai jugé qu'il était de mon devoir de publier non pas tout, ce serait trop hideux, mais une partie des mystères d'iniquité dont j'avais été témoin quand j'étais dans les murs de cette Sodome moderne. J'ai donc publié un grand nombre de brochures et de livres dont les principaux sont « Le prêtre »,« La femme et le confessionnal » et « 50 ans dans l'église de Rome ». Eh bien, pour me montrer leur suprême mépris, les nations protestantes de l'Europe ont traduit mes livres dans leur langue et en ont acheté un nombre prodigieux d'exemplaires. Ils ont été traduits en italien, en français, en espagnol, en danois, en suédois, en allemand et en bohème. Le prêtre, la femme et le confessionnal en est à sa 15e édition, bien qu'il ait été publié pour la première fois en 1874. Et 50 ans dans l'église de Rome à sa 43e édition, bien que publié en 1884. 200 000 exemplaires de « Le dieu de Rome mangé par les rats » ont été vendus en Angleterre et un plus grand nombre sur le continent américain. Plus d'un million donc de mes livres et de mes brochures ont été achetés par les protestants pendant 30 ans, tout cela pour montrer aux prêtres du pape qu'ils sont parfaitement honnêtes, de bonne foi et impartiaux quand ils affirment que la corruption de l'apostat Shinichi est si bien connue que nul protestant qui se respecte ne voudrait rien avoir à faire avec lui. 16e fait. Au mois de janvier 1883, je donnais des conférences à Londres quand je reçus la visite de Lord Shaftesbury qui venait m'inviter au nom du comité de la Société biblique britannique et étrangère à assister au grand meeting du 5 février. Quand j'étais prêtre catholique, j'avais souvent lu les encycliques des papes infaillibles m'assurant que la Société biblique était une invention infernale, que les hommes chargés de répandre la Bible étaient les agents du diable et qu'après Satan en personne, ils étaient les pires ennemis de Dieu. Je devais donc croire cela alors, exactement comme M. Kentucky Benn et tous les prêtres catholiques romains doivent le croire aujourd'hui. Si j'avais eu la moindre dignité ou la plus petite parcelle de religion, j'aurais repoussé avec horreur un message venant de la part d'hommes aussi diaboliques, surtout quand il m'était apporté par un protestant aussi corrompu que Lord Shaftesbury. Mais alors, j'étais aussi corrompu que je le suis aujourd'hui, et j'acceptais l'invitation. Le 5 février 1883, j'étais au milieu de ces infâmes hérétiques, qui, suivant sa sainteté le pape, sont les ennemis de Dieu et de son fils Jésus-Christ à un tel point qu'ils font circuler sa parole meurtrière des âmes dans le monde entier. Je leur fis un discours qu'ils résolurent de faire imprimer et répandre à 100 000 exemplaires dans toute la Grande-Bretagne. Trouvant grâce à mon discours que j'étais aussi corrompu qu'ils l'étaient eux-mêmes concernant la Bible, ils m'élurent par un vote unanime, au nombre des gouverneurs et directeurs de la Société biblique britannique et étrangère. Et maintenant, vous pouvez voir mon nom figurer parmi ceux de ces hommes dépravés. Après une preuve si écrasante de ma totale corruption, j'espère, monsieur le rédacteur, que vos lecteurs admettront facilement que monsieur Kentucky Benn, ses évêques et ses prêtres, sont de vrais gentlemen, de sincères amis de la pure vérité, quand ils proclament depuis 30 ans, dans le monde entier, que l'apostat chiniki est si corrompu que nul protestant honnête ne voudrait rien avoir à faire avec lui. Agréé, etc. Charles Chiniki.